autour de la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu a fait. Et c'est en rapport aussi avec le message qu'on va voir. Mais je pensais en introduction à ce verset du livre du prophète Ésaïe qu'on connaît bien, où il est dit ceci: « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne cherchais pas Dieu. Mais c'est lui qui m'a trouvé. Et je pense que ce matin, on est tous un peu, pour la plupart, un peu dans ce cas-là. On ne cherchait pas Dieu, c'est lui qui nous a trouvés. Alors ce matin, on veut vraiment lui apporter la reconnaissance de nos cœurs. On veut réaliser que vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et justement, on va commencer par ce premier chant qui nous parle de la grâce de Dieu, sola gratia. Voilà. Comme ça, mais on n'en fait pas véritablement un sujet. Et pourtant, je crois que c'est tellement important. Alors, peut-être pour certains, ça va être basique, mais je crois que c'est important de rappeler, de voir ce qu'on va voir. Et je me dis que peut-être ce matin, quelqu'un ou quelques-uns ont besoin d'entendre ça, ou de réentendre ça. Alors regardez, on va lire un premier texte dans le livre des Juges, au chapitre 10. C'est un texte qui m'a, dans mon culte personnel, qui m'a interpellé, qui m'a touché. On ne va pas s'arrêter que sur ce texte-là, on va en voir plusieurs pour vous montrer que cette vérité sur laquelle on va s'arrêter, c'est tellement important. On peut parler de bien des choses, mais si on ne met pas ça en évidence, tout le reste est annulé. Alors vous allez vite comprendre, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Regardez, Juges chapitre 10, verset 6. Il est dit ceci: « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. » Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. N'en jetez plus. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël: « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi, écoutez bien, Dieu dit: je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Et là, regardez ce qui se passe. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et c'est ce verset qui m'intéresse. Moi, je l'ai souligné parce que ça m'a touché. « Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. » Et je dis amen à cette lecture. Si j'avais un titre à mettre à ce message ce matin, ça serait celui-là: pourquoi il faut parler de la repentance aujourd'hui? Je crois que c'est important de parler de la grâce de Dieu. On a chanté des chants sur la grâce de Dieu ce matin, beaucoup de chants. Je suis une perle de... On a chanté ce chant, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Voilà, j'ai retrouvé la phrase, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. On a chanté ta grâce seulement, ta grâce me justifie, etc. Enfin, on a chanté des chants sur la grâce de Dieu. On peut parler de la bénédiction de Dieu ce matin. On peut parler des promesses de Dieu ce matin. Tous ces sujets, ils nous enthousiasment, ils nous emballent. On aime ça, on dit gloire à Dieu, amen, on veut les recevoir. Mais je crois que c'est important de réaliser que tout ça n'est rien sans repentance. Si on ne parle pas de la repentance, voyez. Et ici dans ce texte, et j'y reviens, moi je suis touché parce qu'on voit quand même que le peuple d'Israël est allé très loin dans l'abandon des choses de Dieu. Vous avez remarqué au début, bon, on lit ça vite, mais enfin quand même quand on y réfléchit, ils se sont tournés vers tout un tas de faux dieux, les Baals, les Astarté, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, etc. etc., etc. Hein, et puis à un moment donné, ils se tournent vers Dieu. Franchement, vous aimeriez qu'on fasse ça? On vous jette? Et puis on revient vous voir, ben écoute, finalement, et puis on le fait une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois, et dix fois, et au bout d'un moment, je ne sais pas moi, vous ne diriez pas, écoute, ça suffit maintenant. D'ailleurs, si à un moment donné, ce que Dieu va dire, bah, écoutez, je ne vous délivrerai plus. Hein. Ça suffit, débrouillez-vous, quoi. Hein, puisque vous voulez faire comme ça, allez-y, quoi. Hein. Et la Bible nous dit qu'ils vont se repentir. Ils vont dire, j'ai péché, nous avons péché. Et chose surprenante, verset 16, la Bible nous dit que devant ça, Dieu fut touché des mots d'Israël. Moi, je l'ai souligné. Il fut touché des mots d'Israël. Vous vous rendez compte? Le Dieu des cieux, le Dieu qui a tout créé, il est touché quand un homme, quand une femme, quand un peuple, quand une église se repent. C'est extraordinaire, c'est beau. Et vous avez là une des raisons de pourquoi il faut parler de la repentance, parce que ça touche le cœur de Dieu. Voyez. Et j'ai pris ce texte, mais dans la Bible, des histoires de repentance magnifiques, mais vous en avez des tas, vous avez des belles histoires de repentance. Et même nous les chrétiens, on connaît ça, mais moi quand je lis ces textes, ça me touche, ça me remue. Je dis, mais Seigneur, mais quel Dieu extraordinaire tu es, quand quelqu'un se repent, ton cœur est touché. Alors, je vous en cite trois rapidement. Vous vous rappelez la repentance de Manassé, un des fils d'Ézéchias, le fils d'Ézéchias qui lui a succédé. Manassé, j'allais dire dans le sombre classement des gens qui ont fait pique-pendre, ben alors lui, il est en tête, ou en tout cas, il n'est pas loin de la tête. Voyez, il a pratiqué l'occultisme, alors qu'il connaissait les choses de Dieu. Hein. Il a pratiqué l'occultisme, il a fait passer ses fils par le feu, nous dit la Bible. Enfin, il est fou. Savoir tout ce que Dieu dit et puis faire tout le contraire. Et la Bible nous dit même, regardez, 2 Chroniques 33, verset 10, « L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, ils n'y firent point attention. » Voyez. Alors l'Éternel fit venir contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes et des reins et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, on pourrait dire, ben, tu fais pas le malin, là. Hein. Voyez, ben, tu récoltes ce que tu as semé, quoi. Voyez. Qu'est-ce qu'il fait? Il implore l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et regardez, il lui adressa ses prières. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit pas, débrouille-toi. Non, 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 il ne dit pas ça. Regardez. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est beau. Rendez compte, le Dieu des cieux qui se laisse fléchir. Nous, des fois, on est tellement infléchissables. Jamais je lui pardonnerai, c'est fini. Ouais. Heureusement que Dieu ne fait pas ça avec nous. Hein. Avec ce qu'il m'a fait, avec ce qu'il a dit, c'est terminé. Ben, s'il y en avait un qui aurait pu dire ça, c'est Dieu. Hein. Manassé, avec ce que tu as fait, je t'ai parlé, tu n'as pas voulu écouter, mais maintenant, débrouille-toi. Dieu se laisse fléchir. Mais quand je lis ça, je me dis, Seigneur, mais quel Dieu extraordinaire tu es. Quand un homme, quand une femme se repent sérieusement, sincèrement, et il est dit que ça a été sérieux, hein, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, le cœur de Dieu s'est laissé fléchir. Peut-être nous, nous retenons, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Non, il ne mérite pas. Mais Dieu se laisse fléchir. Bon. Je pense aussi à un homme comme Akab. Alors Akab Manassé, même au combat. Hein. Akab, regardez, un roi 21, regardez le tableau, il est dressé. Hein. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je veux dire, hein, c'est clair. Hein. Voyez. Donc, peut-être même au-dessus de Manassé. Personne. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Bon, en plus. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, regardez, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna, il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et regardez, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison, etc. etc. » Mais ce que je veux noter, c'est « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Dieu l'a vu. » Ce qui montre que quand un homme, une femme se repent, Dieu le voit et Dieu le remarque. Est-ce que tu as vu et là encore, je me dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Chaque fois qu'on se repent, et même si ça fait, et on y revient, on demande pardon au Seigneur parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, Dieu le voit et il le remarque. Ça ne passe pas inaperçu. Peut-être ce matin, quelqu'un pourrait dire, oh, mais je me suis repenti, mais ça ne doit servir à rien. C'est faux. Dieu le voit. Et puis, bon, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il y a la belle repentance du fils prodigue. On connaît ça. Hein. Et je prends juste ce verset, vous rappelez, hein, il est là avec les cochons, mais pff, combien d'ouvriers ont du pain en abondance chez mon père, et moi ici je meurs de faim, j'irai, je me lèverai, j'irai vers mon père. Hein, et le père, quand il arrive, il attend avec le fouet, il attend, il va. C'est ça l'histoire, non? Vous connaissez? Luc 15, verset 20, il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa et le baisa. Je suis sûr, c'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis, qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais vous imaginez, alors bien sûr c'est une parabole évidemment, mais je me dis, mais le Père, qui est là ici une image du Seigneur, qui court vers son Fils, Dieu qui court vers nous, il le prend, il l'embrasse, mais il n'en demandait pas tant, d'ailleurs il va lui dire, mais je ne suis pas digne, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, voyez, je mérite, même lui disait, je ne mérite pas plus que ça. Le père dit, non, allez là, mettez-lui l'anneau, la plus belle robe, les souliers. Vous voyez, quand quelqu'un se repent, mais ça touche le cœur de Dieu, ça suscite une réaction d'amour extraordinaire. Vous voyez. Et vous avez, au travers de ces 3-4 exemples que je viens de citer, là, avec notamment le premier dans le livre des juges, vous avez une des raisons de pourquoi il faut parler de la repentance. Parce que ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Et puis non seulement ça touche le cœur de Dieu, mais ça c'est la base de la base, mais je vais quand même le dire ce matin, parce que sans repentance, il n'y a pas de salut. Hein. Pour être sauvé, il faut se repentir. Hein. On n'est pas sauvé parce qu'on est gentil, parce qu'on est sympa, parce qu'on a rendu service. Hein. Tant mieux si on a rendu service, c'est bien. Mais si on ne s'est pas repenti de ses péchés, on est perdu. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est pas dur, mais c'est la parole. Vous rappelez, à la Pentecôte, quand les gens ont été touchés, qu'ils ont entendu la prédication de Pierre et qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre va dire? La première chose qu'il va dire, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dira à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et regardez, première chose, Pierre leur dit, comment, il ne va pas par quatre chemins, hein, repentez-vous, premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, les choses, elles se font, il y a un ordre. On ne se fait pas baptiser pour se repentir, mais c'est parce qu'on s'est repenti qu'on se fait baptiser. Vous voyez, donc la repentance, pour être sauvé, c'est la première étape, c'est la première chose. Vous voyez, et si ça ne suffit pas, l'apôtre Paul va le répéter dans un autre texte, quand il est dans la ville d'Athènes, qu'est-ce qu'il va dire? Et moi j'aime beaucoup ce texte, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, en tout lieu, ce n'est pas une histoire de lieu, d'endroit, de personne, non, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Vous voyez ? Qu'ils aient à se repentir. Donc c'est quand même important. C'est quand même important, vous voyez. Et puis j'aurais pu citer cette parole de Jésus, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà pourquoi ce matin, et peut-être je m'adresse à quelqu'un, peut-être à un ami, peut-être on vient, on est là, on entend la parole de Dieu, ça nous fait du bien, on dit tiens, c'est intéressant, etc. Faut être intéressant ou pas, je ne sais pas d'ailleurs. Mais j'aimerais te dire que si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, ben, tu as besoin de le faire. Non pas parce que je le dis, mais parce qu'on en prend conscience, et parce que quelque part, c'est le premier pas pour être sauvé. Peut-être ce matin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, pour avoir mon nom inscrit dans le livre de vie? Ben, il faut que tu te repentes de tes péchés. Et si tu ne t'es pas repenti de tes péchés, mais tu vas avoir un problème le jour où tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas avoir un souci. Parce que le salut, il est pour ceux qui se repentent. Alléluia. Je sais que c'est basique, mais il faut le dire. Il faut y revenir. Et puis, regardez, une autre raison de pourquoi il faut parler de repentance, et là, les chrétiens et les croyants, ça nous concerne aussi. Une autre raison, et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme veut essayer de minimiser la repentance, qu'on en parle de moins en moins. C'est parce que la repentance, ça permet à Dieu d'agir. On veut que Dieu agisse. Ben, des fois, l'action de Dieu, elle passe par la repentance. Ouais. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 18. Regardez, il est dit, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Se repentaient. Se repentaient. Voilà, là, leur cœur avait été touché, leur cœur avait été saisi, ils avaient cru, la parole de Dieu avait touché leur cœur, ils avaient réalisé ce que Jésus avait fait sur la croix, et là, Ils confessent. Là, ils le font devant tout le monde. Alors, ce n'est pas une règle pour faire la confession comme on la connaît aujourd'hui. Hein. Mais, voyez, et là, regardez ce qui se passe. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, l'occultisme, hein, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. C'est-à-dire que, je vais y venir, il ne s'agit pas que de se repentir. Il faut qu'il y ait les actes derrière. Il faut que ça suive derrière. Et ils les brûlèrent devant tout le monde. Soit dit en passant, ça c'est important. C'est important. Je sais. Si quelqu'un a touché à l'occultisme ce matin, il faut couper tout. Hein. Il faut tout jeter. Hein. Il faut tout jeter. Moi je me souviens de ce serviteur de Dieu qui disait qu'il avait été dans une maison, une femme avait pratiqué l'occultisme et elle avait un livre avec lequel elle avait appris ces choses-là. Et elle n'arrivait pas à s'en séparer. Elle n'arrivait pas à le jeter. Elle lui a dit, vous n'arrivez pas, moi je vais le faire. Et il l'a pris. Et quand il l'a amené, je ne sais pas où, si c'est son jardin ou ailleurs, et quand il voulait mettre le feu au livre pour le brûler, le livre ne voulait pas brûler. Il ne voulait pas brûler. Hein. Vous voyez, il y avait quelque chose de malsain, de ténébreux là. Vous voyez, il ne voulait pas brûler. Il a réussi à le faire brûler, mais une fois qu'il a fini par y arriver, il a mis un temps à brûler le truc. Vous voyez, pour dire que là, il y avait quelque chose, vous voyez, de terrible. Hein. Il y a des fois, il y a des choses, il faut s'en séparer. Je parlais de tri vendredi soir, faire du tri, mais il faut s'en séparer. Je me souviens d'une maison, c'est du côté de Limoges, où on me dit, une chrétienne me dit, écoutez, il y a une dame qui va vous appeler parce qu'elle a des manifestations dans sa maison, ça bouge de partout, tout ça. Bon, j'ai dit, mais elle a trafiqué, mais avec l'occultisme, elle me dit, je ne sais pas, vous verrez. C'est gentil, les gens, vous ne savez pas, vous verrez. Donc bon, je me suis retrouvé dans cette maison et la dame m'explique. Hein, je dis, mais vous touchez à l'occultisme, vous avez... Elle me dit non, tout ça, non. Non. Et puis bon, à un moment donné, elle me fait visiter un peu la maison. Je dis, mais expliquez-moi un peu. Alors elle me fait visiter la maison et puis pff, à un moment donné, elle me dit, c'est quoi cette pièce? Elle me dit, ça c'est la chambre de mon fils. Il n'était pas là, j'ouvre la porte, je rentre. Vous savez, le gamin, il écoutait tout ce qui était métal et machin. La chambre, elle était noire. Mais alors, bon, j'ai dit, déjà là, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Puis, je dis à cette dame, mais dites-moi, votre mari fait quoi? Elle me dit, c'est une espèce de représentant, mais dans le monde entier. Et puis, j'ai dit, il va où? Elle me dit, en Afrique. Hein. Où? J'ai dit, mais... il n'aurait pas ramené quelque chose hein, un jour et que ça traîne dans la maison, tout ça. Elle me dit non. Et puis donc, elle me dit attendez. Elle me dit venez avec moi. Et puis elle m'amène. Et elle m'amène tout ça. Et puis en fait, un jour, elle me dit un gars sympa lui a donné ça, une espèce de statuette. Vous voyez, j'ai dit c'était qui le gars? Je ne sais pas. J'ai dit écoutez, vous savez quoi? J'ai dit je vais le prendre le truc. Hein, c'est une espèce de statuette, là, machin, truc. Là, j'ai pris ça dans un sac. Et puis bon, j'ai bazardé ça, elle me dit mon mari va pas être content, hein. Bon bref, sauf que quand même quelques temps plus tard j'ai appelé, vous avez eu des manifestations dans la maison? Non, il n'y en a plus. Ah, j'avais dit le fils aussi, il faut nettoyer un peu tout. Mais il y a des choses, il faut s'en séparer, hein, parce qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses qui ne vont pas, voyez. Mais bref, donc là ils le font, ils brûlent devant tout le monde, on en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent, en plus ça coûte cher ces trucs, voyez. C'est pas donné. Voyez. Et regardez, et ça, c'est ça qui m'intéresse. Je reviens à mon sujet. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc je rappelle, il y a deux choses ici. Il y a la repentance d'abord, ceux qui avaient cru confesser, ils disaient ce qu'ils avaient fait, et puis il y a eu la séparation. Et tout ça a permis que la parole de Dieu se répande, que Dieu agisse. Voyez. Et je crois fortement... qu'il y a des moments, il y a certaines situations où si on veut voir la main de Dieu à l'œuvre, il faut que ça passe par la repentance. Il faut que ça passe par la repentance. Il n'y a rien à faire, voyez. Il faut que ça passe par là. Voyez, je crois que parfois, il y a des situations qui sont bloquées, qui n'avancent pas, ça reste toujours au même point, parce qu'il y a un besoin de repentance. Alors, des fois, on ne veut pas, pour X raisons, mais j'aimerais dire ce matin, et on va mettre un texte à l'appui, que s'il faut se repentir, on peut, et qu'on ne le fait pas,
On peut faire tout ce qu'on veut à côté, ça ne bougera pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre 100 000 euros dans l'offrande, hein, tu peux dire, ben, je vais donner une maison à l'église, tu peux donner tout ce que tu veux, hein, un château, tout. Tu peux faire des tas de choses. Mais si c'est la repentance qu'il faut, ça ne servira à rien. Et ce n'est pas Cyril qui le dit. Rappelez-vous ce que disait David dans le psaume 51. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je t'en aurais offert, voyez. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Quelqu'un qui se repent. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas quelqu'un qui se repent. Et parfois, on cherche par tous les chemins pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ? Ben, peut-être dans un domaine, dans un autre, il y a besoin de se repentir. Et quand on se repent, Dieu agit. Quand on se repent, il y a des situations. Tout d'un coup, ça se dénoue tout seul. Ça, permettez-moi l'expression, ça s'en mange bien. Et tout d'un coup, tu dis, tiens, mais sans forcer, sans pousser, sans crier, sans... Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la repentance, elle a permis de... Hop, à Dieu d'agir. Et pourquoi il faut parler de la repentance ? Et pourquoi le diable n'aime pas qu'on parle de la repentance ? Parce que c'est aussi une clé pour permettre à Dieu d'agir. Il faut, on cherche des méthodes, on cherche des trucs pour faire ce... Il faut faire ça, il faut faire... Eh bien, s'il y a besoin de se repentir, il faut commencer par là, devant Dieu, simplement. Et le Seigneur fait ce qu'il a à faire, fait ce que nous, on ne peut pas faire. C'est important. Alors après, quelque part, il faut laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Il ne faut pas chercher des péchés où on n'en a pas. Commencez pas à dire, oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais on le sait, s'il y a des trucs qui ne sont pas réglés, on le sait. Au fond de nous, s'il y a des choses où il faut régler, on le sait. Ouais. Maintenant, en parlant de repentance, et je ne pense pas qu'on ne puisse pas l'aborder, c'est qu'il y a la vraie repentance et il y a les pseudo-repentances. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent, mais il faut le faire. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, qui à un moment donné écrit aux Corinthiens, et va leur donner ce que moi j'appelle un peu la définition de la repentance. Vous avez la définition. Regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il dit... En effet, la tristesse selon Dieu, moi j'aime bien cette expression, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, la repentance, ce n'est pas un regret, hein, ou un remords. Repentance, c'est qu'il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur. Vous voyez, il y a un changement, il y a une métanoïa, vous voyez, il y a quelque chose de fort, de puissant. Et regardez la suite. Et voici... Cette même tristesse selon Dieu, cette repentance, regardez ce qui s'est passé. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Alors je ne vais pas m'arrêter sur le contexte, mais ce que j'aime ici, c'est quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Ce n'est pas quelque chose d'extérieur la repentance, c'est à l'intérieur d'abord. Et ça va se répercuter à l'extérieur. C'est-à-dire que la vraie repentance, elle ne nous laisse pas intactes. C'est-à-dire que ça amène du fruit. Ça amène des changements d'attitude. Ça amène des changements de comportement. Ça amène des changements de manière de fonctionner. Parce qu'on s'est repenti, on ne peut plus continuer comme à l'an 40. Aussi simple que ça. Vous voyez ? C'est ce que dira Jean-Baptiste aux religieux qui venaient pour se faire baptiser. En disant, produisez donc du fruit digne de la repentance. Eh oui, parce que ils venaient pour se faire baptiser, mais ils n'avaient rien changé, quoi. Ils continuaient comme si de rien n'était. Ça, ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, il y a un fruit derrière. Ça se voit, on dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, la personne s'est vraiment repentie. Ça produit des changements. Quand je pense à l'attitude de Zachée, quand il a reçu Jésus dans sa maison, il va dire, mais je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien sûr, c'était ce que la loi préconisait, on est ok, mais enfin, quand même, il le fait, quoi, vous voyez, il y a un changement d'attitude, et il ne se le garde pas pour lui, vous voyez. Et moi, j'imagine la tête de tous ceux à qui il est allé rembourser l'argent, lui, Zachée, le chef des publicains, vous imaginez, quand il a tapé à la porte, quand ils ont dû le voir, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'il vient encore nous faire, celui-là. Il veut nous. Qu'est-ce qu'il y a ? On doit encore des sous ? Ben non, je viens vous en rendre. Oh, chérie, viens me voir, il y a un miracle. Hein ? Vous voyez ? Vous imaginez la tête des gens ? Ben oui, je vous donne... Mais hein, peut-être même les personnes disent « Attendez, monsieur Zaché, vous avez de la fièvre, qu'est-ce qui vous arrive ?» Ben non, j'ai rencontré Jésus, je me suis repenti. J'ai fait ce qui était mal, je vous ai volé, je vous demande pardon. Et les gens, ils ont dû se dire « Voilà, voilà. » Et ça, c'est un miracle, la repentance. Hein. Quand quelqu'un se repent, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça parle plus que tout ce que vous voulez, hein. C'est extraordinaire. Moi, peut-être je l'ai déjà raconté, je ne me souviens plus. Maintenant, il est parti avec le Seigneur, le papy Gisquet, qui racontait que quand, avant de se convertir à l'armée, il avait piqué tout ce qu'il avait pu piquer, il avait piqué. Et puis quand il s'est converti, quand vraiment il s'est repenti, il est retourné voir le grand chef là-bas, je ne sais pas où, de la caserne où il était. Et il vient me voir, et pourquoi vous venez me voir ? Eh bien voilà, vous vous souvenez, il manquait ça, c'est moi qui l'ai piqué, il manquait ça, c'est moi qui l'ai volé, il manquait ça, c'est moi qui l'ai volé, l'autre il est tombé des nues. Alors, et le frère racontait, il disait, alors j'ai jamais entendu ça, là. Voyez ? À tel point que le gars il a dit, bon, allez, ça va, ok, et il est reparti, il pensait qu'il allait, ça allait chauffer pour lui, il est reparti, il dit, mais j'avais fait ce que j'avais à faire, vous voyez ? Fruit digne de la repentance. Parce que vous avez la pseudo-repentance. Les pseudo-repentances, alors j'en ai pris une dans la Bible, la plus célèbre de toutes, c'est Saül. Hein. Saül, avec David. Je n'ai pas mis les versets, mais vous relirez ça. Vous rappelez quand, par deux fois, David épargne Saül. Saül va pleurer, va verser quelques larmes. Oui, vous relirez 1 Samuel 24, 1 Samuel 26. David, c'est toi, mon David. Oh, j'ai mal agi. Oui. Voyez, voilà, je te laisse repartir en paix. Tu es plus juste que moi. Et puis, 4 matins après, il recommence. Ce n'est pas de la repentance, ça. C'est des pseudo-repentances. Voyez. Et le problème, c'est qu'on voit que ça a mal fini pour Saül. Vous savez, quand c'est de la pseudo-repentance, mais c'est pas suivi d'effet derrière et que 4 matins après on recommence. Hein, alors je parle pas de ceux qui, ça c'est autre chose. Hein, des fois on se bat avec quelque chose, avec un problème perso, on essaie de s'en débattre et il y a des luttes et des combats, vous voyez. Et parfois on retombe dedans. Je parle pas de ça. Ça c'est encore autre chose. Mais des fois il y a des situations. Bon écoute, hein, je viens te demander pardon. Hein, mais la fois d'après, allez, quand on peut ça, c'est de la pseudo-repentance, ça. Voyez. Et ça, c'était Saül, vous voyez. Et peut-être, moi, je ne sais pas, ce matin, j'aimerais peut-être m'adresser à quelqu'un, peut-être le Seigneur voudrait s'adresser à quelqu'un d'une manière particulière. Voyez. C'est important de réaliser que la repentance est une clé tellement importante pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse se manifester. Voyez. Je crois que c'est important. Et puis, la vraie repentance, elle ne cherche pas d'excuses. Elle ne cherche pas à se dédouaner. Elle ne cherche pas à dire « Oui, mais bon, j'ai fait ça, mais vous comprenez. » avec ce... et... Non, non, non. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le psaume 51. Quand David, il se repent, il ne dit pas « Ouais, mais Bathsheba, puis qu'est-ce qu'elle s'est baignée toute nue là, en dessous Moi, j'y suis pour rien, j'étais là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas bien ce que j'ai fait, mais enfin, elle... » Il n'en parle même pas. Et vous relirez, je l'ai souvent dit, vous relirez le psaume 51, jamais il parle d'elle. Et il va dire, je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. J'ai péché, il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal, en sorte que tu seras juste et sans reproche dans ta sentence, Seigneur. Quoi que tu feras, quoi que tu décideras, ben, tu tiens juste parce que c'est moi qui ne suis pas. Waouh. Et je crois que David était l'homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, parce qu'il ne l'était pas, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait se repentir. Il savait se repentir. Il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas à se dédouaner ou à quelque part à minimiser ses actions en disant « Oui, mais moi j'ai fait ça parce que l'autre il m'a fait ça. » Non, non, il se repent. Je reconnais mes transgressions. C'est pour ça que le diable n'aime pas ceux et celles qui se repentent. Et il n'aime pas qu'on parle de ce sujet-là parce qu'il sait que parfois la clé, elle est là. Elle est là. Un homme, une femme, un chrétien, parce que ça concerne aussi les chrétiens, quand il se repent, ça permet à Dieu d'agir. Et moi, je remarque que dans la Bible, des gens qui auraient dû se repentir et qui ne l'ont pas fait, mais vous en avez. Hein. Je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Je pense à Simon le magicien. Il a été baptisé. Bon, c'est vrai, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il n'avait pas compris. Il y a des détails dans son histoire qui montrent qu'il n'avait pas compris. Mais le problème numéro un, c'est qu'il aurait dû se repentir. Il ne le fait pas. D'ailleurs, on va le mettre. Ça sera peut-être le dernier texte. Hein, regardez. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, hein, il leur offrit de l'argent. Quand il est dit qu'il a vu, il a vu quoi? Eh bien, il a vu, il a entendu, il a bien vu qu'il se passait quelque chose. Hein, voyez, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Déjà, vous voyez, ce pouvoir, ça montre qu'il n'avait pas coupé avec son passé. Hein, puisque vous savez qu'il était spirite. Enfin, il pratiquait l'occultisme, encore une fois, voyez. Et il parle comme avant. Il parle comme avant, hein. Avant, il avait un certain pouvoir. Là, il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Il y a un truc qu'il n'a pas compris, là. Voyez, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Quand même, les apôtres, ils y allaient. Hein. Vous imaginez si Cyril, le pasteur, dit à quelqu'un, après le culte, là, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que... Il est dur, hein. Oh, qu'est-ce qu'il lui a mis? Ben, Pierre, voilà. Et puis ça, c'est un texte parmi d'autres. Hein. Ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Hein. Mais bon, il vaut mieux que moi. Et regardez, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pouh. Mais ouais, mais bon, il voulait qu'il soit sauvé. Vous voyez, il voulait le sauver. Il voulait pas. C'était pas pour lui faire du mal. C'était pas pour lui faire du mal, c'était parce qu'il voulait que cet homme soit sauvé. Regardez ce qu'il lui dit. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Voyez, car je vois, et allez, il en remet une couche, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ouf! Mais il lui dit, mais la solution, tu l'as. Repens-toi. C'était ça la solution, il n'y avait pas d'autre, hein. Il lui dit pas, va faire un pèlerinage là-bas, tu vas me réciter je ne sais pas trop quoi, tu vas faire le tour de l'église à cloche-pied. Non. Voilà. Tu vas ouais, réciter trois patères, ouais. Mais il fallait qu'il se repente. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et vous rappelez sa réaction? Je ne sais pas si je l'ai mis, verset 24. Non, je n'ai pas mis. Hein, sa réaction, il va dire, priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Mais il est inconscient, quoi. C'est pas possible. Je dis, mais c'est, il n'est pas bien, quoi. Je dis, mais tu n'as pas réalisé. Moi, je ne sais pas. Je lui dis, mais Simon, mais enfin, tu te rends compte un peu ce que tu dis. Et le résultat, c'est que quand vous lisez la fin, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Il disparaît de la circulation. On n'en entend plus jamais parler. J'espère pour lui qu'il s'est repenti devant Dieu. Hein. Franchement, j'espère, parce qu'alors, s'il ne l'a pas fait, voyez, Dieu nous donnera toujours, toujours et jusqu'au bout l'occasion de nous repentir, quand il y en a besoin. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'est pas le Dieu vengeur, c'est pas le Dieu méchant, c'est pas le Dieu qui nous tape dessus, qui va être là à la moindre incartade. Non, mais Dieu nous donnera toujours l'occasion de nous repentir, mais il faut la saisir, l'occasion. Il faut la saisir. Et je pense à, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, de Saphira, quand elle est arrivée après que son mari Ananias soit tombé, hein, vous connaissez l'histoire, acte 5, environ 3 heures plus tard, elle est arrivée sans savoir. Et ça, c'est, j'allais dire, tant mieux. Parce que le fait de ne pas savoir, ça lui donnait l'occasion de se repentir. Et quand Pierre lui a dit, dis-moi, mais c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Mais là, elle aurait pu dire, non, non, c'est pas à ce prix-là. Je sais pas ce qu'il nous a pris, mais vraiment, je te demande pardon. Mais Dieu l'aurait relevé. Hein. Dieu l'aurait relevé. Et Dieu nous donne toujours l'occasion. Dieu nous tend toujours des perches. Toujours des perches, à un moment donné ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, il nous tend des perches. Et je me dis que peut-être, je sais pas, ce matin, peut-être à Dieu tend une perche à quelqu'un, peut-être à plusieurs, peut-être dans un domaine, il faut se repentir. Ah, et c'est une perche d'amour que Dieu nous tend. C'est pas pour qu'on sorte de là en disant, oh là là là, ce matin, ouf, il s'en va, mais alors qu'est-ce qu'il nous met, hein? Non, c'est non, mais c'est parce que c'est trop important, il faut parler de la repentance, il faut en parler, parce que c'est important, parce que si on ne fait pas ça, si on peut faire ce qu'on veut à côté après, hein? Ça ne marchera pas. Hein? Vous voyez? Ça ne marchera pas. Je crois vraiment, en tout cas, c'est vraiment la pensée que j'avais sur mon cœur, que peut-être Dieu veut parler à quelqu'un ou à plusieurs ce matin. C'est important.
Je terminerai en disant que la repentance, ça nous concerne tous et même nous les croyants. Hein. C'est pas qu'à la conversion. Hein. Parce que souvent on pense que, oui, repens-toi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et puis pop, terminé, on ne parle plus de repentance. Attendez, j'ai noté, vous relirez à la maison, que dans les 7 églises d'Asie, le Seigneur parle de repentance à 5 d'entre elles. Sur les 7, 5 d'entre elles. Voyez, dont la dernière, la Odyssée. Et dont la première, Éphèse. La première et la dernière, il leur en parle. Voyez, je sais qu'il en parle, de mémoire, il n'en parle pas à Philadelphie. Hein, il y en a une autre aussi, mais 5 sur 7, il leur parle de repentance. Et c'est des croyants. Hein, c'est, voyez, donc c'est que quand même, ça nous concerne tous. Même si on connaît le Seigneur, même si peut-être ce matin, on pourrait dire, « Oh non, mais bon, moi je le sais, j'ai pas besoin, ça va. » Franchement, plus je m'approche du Seigneur, plus lentement, mais sûrement, doucement, je le connais, et plus j'éprouve le besoin de me repentir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, je vous parle de moi là. Et je prends souvent cette image, parce que pour moi elle est très parlante, c'est que c'est comme le pare-brise avec le soleil. Hein. Vous croyez toujours que votre pare-brise il est propre. Puis quand vous avez le soleil dessus, vous vous rendez compte qu'il est pourri. Il y a des taches partout, il y a des trucs. Vous vous rendez compte, hein, bon. Des fois, il y a des trucs, ce n'est pas visible. Si c'est la grosse truc de pigeon. Heureusement que les vaches ne volent pas. Mais si c'est la grosse truc de pigeon, vous la voyez. Voyez, ça, c'est les trucs qui se voient. Voyez, c'est les, entre guillemets, il y a des péchés, ça se voit. Ça, vous avez une grosse tache, quoi. Vous ne pouvez pas l'ignorer, vous l'avez en plein milieu du pare-brise, quoi. Voyez, c'est là. Mais il y a des choses, ça ne se voit pas. Et il y a besoin que le soleil, qui est une image du Seigneur, quelque part, nous éclaire. Et là, ça ressort. Dites, oh. Voyez, ben, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ça, c'est moi. Des fois, je dis, oh. Des fois, vous priez pour quelque chose dans un domaine, et puis le Seigneur vous dit, mais ça vous fait ressortir des choses que vous ne pensiez pas. Hein. Mais c'est là, dans les replis du cœur, voyez. Et ça aussi, il y a besoin de... voyez, ça aussi, il y a besoin de se repentir. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais... pasteur ou pas pasteur, eh bien, Bibi, il se repent. Hein. Seigneur, je suis demandé, oh, quand on se rencontre, je sais venir, mais je pensais pas, ça, cette réaction, telle chose, telle attitude. Et puis, des fois, je dis, Seigneur, j'ai l'impression que je fais que me repentir. Mais franchement, c'est pas une corvée, hein, c'est une joie. Mais c'est une joie. Alors, bien sûr, je parle pas de la repentance facile. Oh, Seigneur, je te demande pardon, mais je sais que je vais recommencer 3 minutes après. Je parle pas de ça. Hein. Mais se repentir, c'est une grâce. Ce n'est pas une corvée. Mais je me repens parce que j'aime Dieu. On se repent parce qu'on aime le Seigneur. Et quand le Seigneur met le doigt, quand le Saint-Esprit met le doigt, d'une façon, d'une autre, dans un domaine, bien sûr, on marche de progrès en progrès. Heureusement, d'ailleurs. Enfin, j'espère. Hein. Bon, il y a des choses que... c'est bon, c'est réglé. Mais la vie chrétienne, c'est comme une rééducation. Hein. Seigneur nous rééduque. Bon, moi, ça va faire 35 ans que la rééducation elle a commencé. Bon, il y a encore du boulot, mais... c'est comme une rééducation, voilà. Une rééducation, ça se fait pas sans mal. Hein. Ça, des fois, ça, ouf, voyez. Et puis si des fois vous faites un peu trop, ben ça vous rappelle à l'ordre. Ouh, oh, vous dites, hein. Demandez à Robert avec son dos, il va vous le dire. Hein, des fois, oh. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Des fois, le Seigneur nous rappelle, attention. Voyez, et combien c'est bon de se repentir. Alors oui, je termine. La repentance, c'est un sujet plus que d'actualité. Il faut en parler. En tout cas, dans l'église du Seigneur, que dans cette église, et que dans toutes les églises où la parole de Dieu est prêchée comme elle est prêchée, qu'on parle de la repentance. Parce que si on ne parle plus de ça, il y a beaucoup de choses qui ne se passeront pas. Il y aura peut-être, comme me disait Jean la dernière fois qu'il est venu, de l'ambiance, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas la repentance, c'est parce que ça commence par là, on ne va pas pouvoir aller loin. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, ben, s'il y a des choses encore, montre-moi-les. Et si le Saint-Esprit met le doigt, moi, je ne sais pas, ce matin, si le Saint-Esprit met le doigt, ben, gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, c'est pas... Mais moi, j'ai dit, mais vas-y, Seigneur. Hein, vous voyez, bon, sur le coup, l'orgueil, il en prend un coup, mais c'est pas grave. Pas grave, ça lui fait du bien. Allez, paf. Vous voyez, mais Seigneur, je veux te plaire. On chante au Seigneur, Dieu, c'est mon désir de t'honorer, je veux te plaire. Ben, on plaît à Dieu par la repentance. On plaît à Dieu par la repentance quand on reconnaît. Oui, ben, je reconnais mes transgressions. Oui, je reconnais qu'encore une fois là. Mais c'est bon. Et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de faire des progrès. Et ce matin, peut-être tu sens le Saint-Esprit qui met le doigt, mon frère, ma soeur, dans un domaine, peut-être un ami, peut-être j'aimerais demander ça à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui n'a pas encore fait ce pas. Mais franchement, je t'encourage, repens-toi. Donne ton cœur au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux aller plus loin. Je ne veux pas rester comme ça. Mais si peut-être, mon frère, ma soeur, tu sens, tu sais. Ce matin, j'ai lu quelque chose dans ma lecture personnelle. Franchement, ça m'a... Je l'ai lu des centaines de fois. Hein. Et ça m'a touché. C'est l'histoire de Élie le sacrificateur. C'est ce fameux passage, vous relirez, 1 Samuel 3. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et vous vous rappelez que là, Dieu va venir et va appeler Samuel. Samuel, Samuel. Il va aller voir Élie. Je t'ai pas appelé. Va te coucher, Samuel, Samuel. Bref. Et puis la troisième fois, il va dire, parle quand ton serviteur écoute. Et là, Dieu va lui dire sa pensée. Et il va lui parler de Élie le sacrificateur. Et il va lui parler des choses dont il avait connaissance. Il savait, et c'était concernant ses deux fils, mais il les avait pas réprimés. Il n'avait rien dit. Il savait, mais il n'avait rien fait. Tout ça pour dire, mon frère, ma soeur, si ce matin, il y a des choses on sait dans notre vie qu'il faut les régler, faisons-le. Passons par la repentance si c'est nécessaire, mais faisons-le. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, on l'a lu tout à l'heure. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est une chose. Mais si on le sait, et l'exemple d'Élie, il est là, et qu'on ne le fait pas, c'est grave, quoi. C'est grave. Et quelque part, on est en train là de s'enfoncer tout seul. Et peut-être ce matin, je ne sais pas, le Seigneur veut peut-être parler à ton cœur, mais vraiment avec amour, parce que ce que je vous dis à vous, le premier à qui je le dis, c'est à moi. Que Dieu nous aide. La repentance, c'est tellement important et il faut en parler. Il faut en parler plus que jamais. La nécessité de se repentir. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais que je ne vais pas faire d'appel. C'est entre nous et Dieu après. C'est entre nous et Dieu. Mais je voudrais qu'on prenne ce chant ensemble. Je fléchis le genou, dit ce chant. Et je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Mais Seigneur, j'abandonne entre tes mains ce que je suis, je t'abandonne entre tes mains ma personne. Et Seigneur, là où il y a besoin de se repentir, eh bien je me repens, je le fais avec joie. Parce que je sais que ça touche ton cœur. Je sais que quelque part, ça te permet d'agir. Je sais quelque part que ça te permet de libérer. Ça te permet parfois de débloquer des situations. On cherche des trucs, qu'est-ce qu'il faut faire? Repends-toi. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Ces choses que tu nous rappelles, on les sait pour la plupart d'entre nous. Mais je te demande vraiment de nous aider. Et moi le premier, Seigneur, je suis le premier concerné. Seigneur, s'il y a besoin vraiment de repentance, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui convainc. Et je ne veux pas empêcher ton esprit de me convaincre si besoin. Alléluia. Et si peut-être quelqu'un ce matin a besoin de se repentir, je te prie d'étendre tes mains sur lui et de le bénir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On prend ce chant comme une prière. C'est une prière qu'on fait à Dieu. Mais c'est tellement important. Ce n'est pas un chant de fin. Hein, là. C'est sérieux. Hein, c'est important. C'est quelque chose qu'on est en train de dire à Dieu. Et on veut lui dire en terminant de tout notre cœur. Alléluia. Je fléchis le genou devant toi. Et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait. Celui de te servir et t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne, je ne
suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté.
Dernière fois,
je fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, maître mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, un seul souhait. Celui de te servir et t'adorer, j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté. Divine royauté, j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté.
Seigneur, aide-nous, c'est que ce chant, Seigneur, soit vraiment le reflet de ce qui est au fond de notre cœur, que ce soit vraiment la réalité dans ma vie, dans nos vies, que nous puissions tout abandonner, nos vies, nos personnes, tout ce que nous sommes, Seigneur, pour que vraiment tu puisses, Seigneur, accomplir tout ce que tu as prévu de faire, que tu puisses sauver, que tu puisses te servir de nous, que nous puissions être des instruments de bénédiction, que des situations puissent être débloquées. Seigneur, à toi la gloire encore. Seigneur, merci, parce que jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, tu nous donneras, quand ça sera nécessaire, l'occasion de nous repentir. Alors à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à marcher fidèlement avec toi, dans toutes tes voies et jusqu'au bout. À ton nom seul soit la gloire. Amen.